BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. En cette veille de élections européennes, le sujet de la santé en Europe a-t-il été suffisamment traité? Je n'en suis pas si sûr. Il intéresse en tout cas ma première invitée, Laurence Perrot, directrice générale du LEM, les entreprises du médicament, et qui appelle à une Europe de la santé forte. Septième investisseur mondial dans le secteur de la santé, Eurial, société de gestion de portefeuille, a été une des premières à se positionner sur l'immobilier de santé. Isabelle Claire, sa directrice générale déléguée, va nous dire pourquoi un produit financier ne doit pas être seulement rentable, mais aussi utile et responsable. Enfin, c'est l'un des leaders européens de l'organisation de congrès et événements scientifiques, avec son siège historique à Toulouse, le groupe Europa, et son fondateur Marc Dancieux, qui va nous dire comment son entreprise s'est ouverte à d'autres activités en santé. Check-up Santé, c'est parti. Laurence Perrot, bonjour.
Bonjour Fabien.
Et bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes la nouvelle directrice générale du LEM, entreprise du médicament. J'imagine que c'est difficile de passer après Philippe Lamoureux.
Oh, ben c'est une aventure, la santé. Oui. Non, mais c'est surtout un enjeu très fort, les enjeux de santé. Vous le mentionniez tout à l'heure, notamment au niveau européen. Donc, je prends ce rôle.
Mais la barrière, je suis sûr que vous allez la franchir. Alors, dites-nous en quelques mots les missions un peu du LEM.
Ben, les entreprises du médicament, d'abord, c'est 300 entreprises qui œuvrent chaque jour pour que nous, vous et moi, on ait accès à nos traitements tous les jours, là où on en a besoin, quand on en a besoin. Donc, 300 entreprises sur le territoire français. Donc, une organisation professionnelle pour développer ce secteur pour le compte des Français.
Et quand on pense à l'industrie pharma, c'est vrai que la plupart des gens pensent seulement à Big Pharma. Alors, on sait que 70%, c'est ça, des entreprises de l'industrie ne sont pas des grosses, ne sont pas des Big Pharma.
Mais pas toutes, effectivement. Oui. Ce sont des petites entreprises sur le territoire qui produisent nos médicaments. C'est aussi les grandes entreprises qui produisent de l'innovation. Et c'est tout cet écosystème d'entreprises qui vous permet, vous et moi, d'avoir accès à nos traitements.
Alors, en cette veille de d'élections européennes, c'est même ce week-end. Je sais que vous êtes très sensible et très impliqué à une Europe de la santé forte et que votre organisation n'est pas repliée sur elle-même. C'est bien ça ?
Ah non, on a un devoir même d'être très présent au niveau européen et l'Europe a même ce devoir d'être très présent pour les patients. Un chiffre, en 10 ans, l'Europe par rapport aux États-Unis, nous avons perdu 20 milliards d'euros d'investissement sur le territoire en Europe. Donc c'est notre responsabilité à la fois d'attirer des capitaux pour investir en recherche et d'attirer aussi des talents pour investir en recherche également.
Ouais, donc c'est vrai que sa part en investissement est en baisse.
La part de l'investissement est en baisse, la part de nos exportations sont en baisse et donc c'est notre devoir aussi, les entreprises du médicament, à agir pour cette Europe forte en santé, vous le mentionniez. Donc on veut agir, on veut orienter les politiques publiques également pour faire en sorte que l'Europe soit encore plus forte aujourd'hui.
C'est pas utopique, non? Quand on pense à une Europe qui est un espèce de patchwork de pays avec des réglementations différentes.
C'est pas utopique, c'est exigeant en fait. C'est exigeant à ce qu'on se mette tous d'accord. Alors tous d'accord pourquoi? Un, je le mentionnais, la R&D c'est que pour que nous ayons accès plutôt à l'innovation. C'est important aussi pour toutes les transitions, qu'elles soient environnementales, sociétales, sociales, et pour se mettre d'accord pour que l'Europe soit plus forte et pour agir entre les États-Unis et l'Asie. On a besoin d'une Europe très forte.
Et comment faire justement pour améliorer pour développer cette recherche, pour attirer à nouveau les talents qui parfois enfuient vers les US?
Il faut encourager des politiques publiques, à la fois sur, je vais vous donner un exemple, sur les essais cliniques. On peut faire en sorte que les essais cliniques arrivent plus tôt, pour que les patients entrent plus tôt dans ces essais cliniques. Un autre exemple, il faut soutenir les approvisionnements, pour que les approvisionnements au niveau européen soient plus forts, notamment au moment des pandémies. Donc ça, on a des politiques publiques à défendre. Il faut qu'on défende nos brevets. C'est important que nos entreprises aient des brevets et se lancent dans ces investissements très lourds que représente la recherche. Voilà, donc c'est un ensemble de mesures sur lesquelles nous travaillons et nous œuvrons très fortement, nous la France. On a une part de voix très forte en France. Donc il faut être présent.
Alors, on parle beaucoup de pénurie de médicaments, mais cette pénurie, est-ce qu'elle est la même à l'échelon européen? On a une pénurie aussi partout en Europe?
Alors, c'est un sujet absolument européen pour plein de raisons que l'on connaît aujourd'hui, que l'on a identifiées. Évidemment, la complexité de fabrication d'un médicament. Donc, c'est un médicament de plus en plus sophistiqué, demande des chaînes de production différentes et complexes. C'est aussi le sujet des transports, c'est aussi le sujet de la mondialisation. Et donc, la santé aussi économique de nos entreprises, c'est important qu'on puisse être souverain au niveau européen et d'inciter nos entreprises à rester sur nos territoires.
Alors, on va revenir en France, pays de la polymédication, C'est bien ça?
Alors, vous pointez du doigt un sujet sur le bon usage du médicament, et notamment, est-ce que vous et moi, est-ce que nous, les Français, on consomme trop de médicaments ou pas? Pour nous, c'est un enjeu à plusieurs variables. La première, c'est que nous savons, notamment sur les personnes âgées, plus nous vieillissons, plus nous avons des bobos, évidemment, plus nous avons des soucis de santé, et donc, nous consommons plus de médicaments. Oui. Une étude récente a montré qu'au-delà de 5, il y a un mésusage du médicament. Il peut y avoir des effets délétères sur notre santé.
Ce n'est pas qu'une question d'économie d'ailleurs. C'est une question de dangerosité au niveau de la santé.
Mais vous avez raison, oui. C'est d'abord un sujet de santé publique. Un sujet de santé publique, et nous devons alerter nos concitoyens de cette nécessité d'aller faire le point avec son médecin, avec son pharmacien, sur la quantité de médicaments que nous consommons. Mais vous avez aussi raison de dire que c'est un enjeu économique, parce que notre enjeu en France, c'est aussi de protéger notre modèle social. Donc sur les comptes publics, nous pouvons agir si nous vendons moins de médicaments, mais mieux de médicaments.
Et vous êtes un peu obligé aussi, d'après les récents PLFSS, de faire sur les médicaments, vous êtes obligé de faire des économies.
Vous avez raison.
Quelques centaines de millions d'euros.
On est engagé dans ce qu'on appelle la loi de financement de la sécurité sociale, de faire des économies. Et les entreprises du médicament, nous sommes un acteur responsable. Donc on a proposé, d'ailleurs, aux autorités, la campagne que nous lançons aujourd'hui. Une campagne qui dit quoi? Qui dit que, à partir de 5 médicaments, il y a intérêt à aller consulter son médecin et son pharmacien. Et donc nous proposons tout simplement de réduire le volume de notre consommation.
Donc une campagne qui s'appelle campagne de sobriété, qui s'appelle Réduisons le volume.
Réduisons le volume. Oui, quand on vieillit, on augmente le volume de la télévision. Là, on dit qu'il faut absolument réduire, en tout cas se poser la question de la réduction du volume.
Ça veut dire qu'il faut travailler de concert avec tous les professionnels de santé.
Alors, nous avons beaucoup consulté les autorités, bien sûr, et les professionnels de santé qui sont à nos côtés pour en faire un sujet de santé publique, un sujet économique également, mais aussi, on l'oublie souvent, un sujet environnemental. Parce que si on consomme moins, on produira moins, en tout cas, on produira mieux. Et donc, le sujet de la protection de la planète fait aussi partie de la sobriété médicamenteuse. Et les entreprises de médicaments y sont très attachées.
Alors, vous proposez donc quelques actions. Je sais qu'il y a quatre actions.
Il y a plusieurs propositions, vous avez raison. On démarre aujourd'hui avec une campagne de santé publique pour faire prendre conscience à vous, à moi, que nous devons réduire nos médicaments. Et nous avons également des actions envers les médecins. Alors les médecins, bien sûr, c'est eux qui décident de la prescription, mais nous avons des actions de formation pour les faire réfléchir également sur leur capacité à baisser la médication des personnes âgées, notamment, en tout cas de se poser la question de le faire. Donc des campagnes de sensibilisation auprès des professionnels de santé et auprès des pharmaciens. Donc on a vraiment une action très collective pour lancer ce grand mouvement de la sobriété médicamenteuse.
J'ai vu qu'il y avait une association, c'est ça, du bon usage du médicament, qui s'appelle Aboum.
L'Abum, c'est d'ailleurs une association qui a été créée par et avec des médecins pour se sensibiliser, pour sensibiliser l'ensemble des professionnels de santé sur les sujets de santé publique.
C'est vrai qu'il y a beaucoup quand même d'applications maintenant qui permettent aux médecins, notamment sur ces logiciels, de réaliser, de constater une mauvaise interaction.
Vous avez raison. Et du coup, alors, les entreprises de médicaments ne font pas du tout de prescription. Par contre, nous avons financé le développement d'applications qui permettent d'informer, d'alerter le médecin quand la prescription passe au-delà de 5 médicaments. Donc, nous finançons ce développement de logiciels pour accompagner les professionnels de santé. Mmh. C'est notre responsabilité.
Et votre campagne s'adresse aussi au grand public.
Et la campagne s'adresse au grand public, et elle s'adresse à vous et moi, parce que les personnes âgées de plus de 65 ans sont concernées au premier chef, mais nous, en tant qu'aidants, nous pouvons aussi accompagner nos aînés sur la bonne médication, et nous avons absolument besoin d'alerter la population, avec une population qui...
Et pourtant, on constate parfois qu'il y a un petit changement quand même. À l'époque, le médecin généraliste était jugé sur la longueur de son ordonnance. Maintenant, on a beaucoup de patients qui vous disent « je n'aime pas les médicaments », etc. Auquel à qui je réponds « je n'aime pas les médicaments, mais j'aime encore moins les maladies ». Donc il faut quand même des médicaments.
Oui, il faut effectivement des médicaments pour accompagner. Un médicament, il sert à quoi? Il soulage, il guérit, il soigne. Donc c'est sérieux, c'est un sujet sérieux. Ouais. Mais trop de médicaments, c'est pas mieux de médicaments. Donc nous, moins c'est mieux. C'est un vrai thème aussi de notre 21e siècle, où nous réfléchissons aussi à nos modes de consommation. Ça concerne aussi le médicament.
Eh bien, merci beaucoup Laurence Perrault, directrice générale du LEM. Merci beaucoup, vous revenez quand vous voulez, notre porte vous est ouverte.
À bientôt, merci.
Merci. Voilà, on va à présent accueillir Isabelle Claire, qui est directrice générale déléguée de Eurial.
BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Isabelle Claire, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Check-up santé. Vous êtes directrice générale déléguée de Eurial. Je précise que ça s'écrit E-U-R-Y-A-L-E. Vous êtes une société de gestion de portefeuille dans la santé. C'est quoi exactement une société de gestion de portefeuille ?
Une société de gestion de portefeuille qui est donc agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, gère une collectivité de biens immobiliers pour une collectivité d'associés. Et en l'occurrence, nous avons 58 000 associés qui sont donc des porteurs de parts de notre véhicule.
Plus des associés que des clients, quoi. Des associés. Ils font partie de...
Ils ont investi et ils nous ont confié leurs investissements. Et donc, nous les gérons avec toute notre expérience, notre professionnalisme.
Donc, vous proposez des solutions, c'est ça, d'épargne, d'investissement, aussi bien pour les particuliers que pour d'autres...
Absolument. Alors, on est spécialement orienté sur les particuliers, à la fois en direct, via des réseaux, des CGP. Et il y a quelques investisseurs institutionnels également dans le capital de la SCPI.
D'accord. J'ai vu que vous étiez le 7e investisseur mondial sur le secteur de la santé. C'est quand même énorme, hein. Plus de 3 milliards d'euros de capitalisation sur le marché. Vous avez quelques exemples de réalisations que vous avez faites, puisque vous êtes spécialiste un peu dans l'immobilier, hein, de l'immobilier en santé.
Complètement spécialisé dans l'immobilier, que ce soit des EHPAD, des cliniques, des maisons médicales, des laboratoires. Et si je veux illustrer le propos, nous sommes en train de réceptionner un laboratoire vraiment très spécifique dans la région de Marseille avec un exploitant d'origine américaine. Nous sommes en train de construire l'hôpital du futur en Moselle pour un exploitant de la santé bien connu, Elsan. Et donc nous sommes très
pour quelques, friands. Pour quelques dizaines de millions d'euros.
Voilà, très friands de nouveaux objets qui répondent pleinement aux standards, aux attentes, aux besoins d'une médecine qui évolue. Et bien l'exploitant se concentre sur son métier et nous, on prend soin des murs et des travaux qui sont nécessités.
Alors justement, je disais tout à l'heure que de gagner de l'argent, ça suffit pas, de produits financiers, mais il faut que ça soit utile et responsable. C'est pour ça que vous avez créé une démarche que vous avez appelée démarche ESG.
Absolument. Donc à la fois, il y a une charte environnementale qui a été signée en 2022, il y a un label ISR, investissement socialement responsable, obtenu en 2023. Et puis, il y a beaucoup d'actions, à la fois, encore une fois, sur l'amélioration de la performance énergétique du portefeuille.
ESG, c'est ESG. Donc le E, ça veut dire
environnement.
Ça veut dire environnement.
S, sociétal. Ouais. G, la gouvernance.
Ouais. Côté environnement, donc c'est vrai que l'immobilier, ça représente, c'est un coût énergétique phénoménal, quoi.
Absolument. D'où l'intérêt également d'être très en amont dans la chaîne de production des nouveaux établissements de santé pour s'assurer qu'ils sont construits selon les meilleures normes, les standards.
Ça vous l'imposez, ça, évidemment, pour la construction.
Oui, voilà. Dans le cahier des charges, on est attentif à contribuer à une amélioration globalement de cette performance énergétique du portefeuille. Et puis, donc le E d'environnement...
Avec l'espoir peut-être d'avoir une neutralité carbone dans quelques années, non ?
On est sur un chemin. De toute façon, le décret tertiaire nous emmène avec un certain nombre d'obligations. Et c'est effectivement quelque chose qui nous motive. Accessoirement, un certain nombre de charges sont finalement à la charge aussi de nos exploitants. Et donc alléger leurs charges est globalement l'intérêt de tous. L'ES va plus s'incarner sur des aspects de société, c'est-à-dire de bien-être, d'attention au parcours de santé
des résidents dans nos EHPAD, dans leurs établissements.
Voilà, tout ce qu'on entend. Est-ce qu'on arrive en salle d'opération sur un brancard ou debout, enfin tout ce qui peut finalement modifier l'aménagement intérieur aussi des établissements.
Et le G ? Gouvernance.
Et le G, alors nous sommes à l'initiative d'un certain nombre de réflexions, nous écrivons des livres blancs, nous animons des séminaires où nous réunissons parfois nos exploitants sur des thématiques. Je vais en citer une qui nous a beaucoup mobilisés, également avec des professionnels de la santé, sur l'intimité dans un EHPAD, comment on gère l'intimité de nos résidents, mais aussi comment, encore une fois, on réfléchit sur est-ce que les chambres, c'est surprenant parfois, pourquoi en France on va privilégier des chambres unitaires, en Italie plutôt à deux. Voilà, il y a aussi toute cette adaptation aux besoins qui diffèrent d'un pays à l'autre.
C'est vrai, sur le plan intimité, c'est important. J'ai le professeur, le patron de la chaîne Esport avait eu un problème cardiaque, il a été hospitalisé. Il a sorti un bouquin après au sujet de l'intimité. Il disait que l'infirmière frappe, mais entre. Elle n'attend pas qu'on lui dise « entrez ».
Voilà, et donc nos exploitants sont signataires, certains, d'une charte qui gère cet aspect.
Et ça ne vous empêche pas d'avoir des actions de mécénat ?
Et nous avons également une action de mécénat auprès de l'Institut du cerveau. Et donc, cela nous permet de prélever une partie des commissions qui devraient rétribuer à la fois la société de gestion et les réseaux de distribution. Oui. Et bien, une partie de cet argent est fléchée vers l'Institut du cerveau. Et puis, bien plus, parce que lorsqu'on fait des séminaires parfois entre nous, et bien, on visite, on s'expose, on s'intéresse et on essaye de le vivre. On s'inscrit également dans une démarche de devenir entreprise à mission et que chaque employé de notre société soit vraiment profondément imbriqué dans cet ADN de...
Ouais. J'imagine que vos 50 000 associés sont ravis de ces actions de mécénat.
En tout cas, on essaye de les tenir informés, de les associer, de communiquer, d'avoir une démarche proactive et d'être porteur de cette conviction.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Claire, directrice générale déléguée de Rien. Merci beaucoup, vous revenez.
Merci Fabien,
quand vous
avec
voulez.
Plaisir.
On va à présent accueillir Marc Doncieux, qui est le fondateur et président de Europa Group.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Marc Doncieux, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous voir dans Check-up Santé. Vous êtes fondateur et président du groupe Europa Group. Énorme succès. Et quand je dis fondé, c'est depuis quand même 37 ans, c'est ça ?
Depuis 37 ans.
Oui.
1987.
Oui, donc franchement, vous avez passé toutes les crises dans le monde de la santé.
Oui, on a passé les crises, notamment la dernière en date, ce qui dans nos métiers n'était pas gagné d'avance.
Ouais.
Mais on a passé 37 ans et 37 années magnifiques.
Et le siège social est toujours à Toulouse ?
Eh oui, on est Toulousain, on reste Toulousain.
Ouais.
De cœur et d'action.
Et j'ai eu la chance de visiter vos nouveaux bureaux parisiens.
Mais écoutez, c'était un plaisir de vous accueillir. On est bien installés.
Ouais. Donc, énorme groupe leader dans votre domaine, avec un paquet de collaborateurs.
535
collaborateurs,
ouais. À date, 535 personnes qui contribuent à toutes les activités du groupe dans les quatre branches.
Alors justement, donc votre champ d'action, c'est évidemment c'est la santé, hein.
Bien sûr.
Mais c'est principalement B2B.
Notre champ d'action, c'est l'information et la formation des professionnels de santé.
Information, donc pour les professionnels de santé.
Pour les professionnels de santé, absolument.
De B2B, donc les professionnels, quand on dit professionnels de santé, les médecins...
Médecins, infirmiers, infirmières, kinés, omnipraticiens, généralistes, etc.
Donc, et parmi tous vos services, évidemment, je pense que c'est le plus, historiquement, le plus important, c'est l'organisation de congrès.
Alors, on a démarré par l'organisation de congrès, c'est l'ADN du groupe, on va le dire comme ça. Ouais. On s'est diversifié depuis quelques années dans les médias, l'arrivée d'Internet, etc. Dès 2001-2002, on a créé nos premières plateformes.
Alors, pour revenir au congrès, on va parler du reste. Après, pour congrès médicaux, donc c'est quelques dizaines de gros congrès.
Congrès médicaux, c'est 60 congrès par an, 200 événements, plus petits congrès, 300-400 personnes, plus gros, 12 000.
Ouais. Parmi les gros, on peut citer...
EuroPCR qui a lieu en ce moment en cardiologie interventionnelle, le congrès de la Société française de cardiologie chaque année en janvier.
Je connais bien.
Absolument, le congrès de la Société française d'ophtalmologie, de médecine du travail, 50-60 congrès par an.
Et puis un petit bijou quand même que vous avez acquis il y a deux ans. C'est le congrès CHAM.
CHAM, auquel vous faites référence.
Notre ami Guy Valencien.
De notre très grand ami Guy Valencien. Là, on est plus dans le monde des politiques de santé, avec Guy, visionnaire s'il en est, et qui réunit autour de CHAM à Chamonix chaque année le monde de la santé.
Alors, c'est vrai que les médecins, vous êtes bien placés pour savoir, les médecins se déplacent dans les congrès. Est-ce qu'ils se déplacent autant qu'avant ? On va en parler tout à l'heure donc il y a quand même eu une réglementation toujours plus stricte.
Bien sûr.
Des rapports entre l'industrie, les médecins. On n'a pas l'impression d'être passé d'un extrême à l'autre.
je ne sais pas si on est passé d'un extrême à l'autre. On est dans un monde qui est extrêmement régulé. Les rapports entre les laboratoires et les médecins sont extrêmement régulés. Ouais. Je crois que c'est très bien.
Est-ce qu'il y a moins quand même de médecins dans les congrès internationaux ?
Non, on a toujours autant de médecins dans les congrès internationaux au niveau continental. Je pense que les congrès américains ont moins de médecins français, sûrement. Mm-hmm. Mais les congrès qui se font en France et en Europe ont toujours autant de médecins mm-hmm. qui y participent, avec des sources de financement désormais différentes, notamment les institutions qui paient directement.
Oui. Alors, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la crise qu'on a vécue il y a 2-3 ans, le Covid, qui a arrêté net vos congrès, non ?
Oui, qui a mis à l'arrêt toutes nos activités présentielles.
Ouais.
La bonne nouvelle dans cette mise à l'arrêt, ouais. c'est que les échanges d'idées, ça se digitalise. Et donc, on a fait pendant un an et demi, des congrès digitaux. Mmh. C'était formidable, parce que ça nous a quand même permis de continuer à faire notre métier d'une forme complètement différente, mais ouais. qui est celle que l'on fait ici, d'une certaine manière. Mmh. Mais on est très vite revenu au présentiel, parce qu'on a très vite vu que tout le monde voulait revenir au présentiel.
Ouais. Le digital n'empêchera pas, évidemment, le présentiel.
C'est un complément. Le digital, ouais. c'est un complément extraordinaire du présentiel, mais nous sommes tous des animaux sociaux, et on a besoin de se rencontrer, de se voir.
Donc du coup, maintenant tous les congrès sont, on va dire, hybrides.
Tous les congrès
sont une partie présentielle et une partie digitale.
Absolument, absolument, mais avec vraiment un retour extrêmement fort au présentiel.
Mm-hmm. Heureusement. Donc, évidemment, vous avez cette activité congrès, il y a aussi l'activité communication, vous avez fait des acquisitions importantes ces derniers temps.
Oui, on a constitué une branche média, mm-hmm. avec un premier groupe qui s'appelle Filia, et Edimark, l'information dentaire, un second qui s'appelle One Health, mm-hmm. Le moniteur des pharmaciens, le point vétérinaire, la semaine vétérinaire, ouais. et puis on a annoncé la semaine dernière que l'agence APM nous rejoignait. Donc, qui est extrêmement connu, qui existe ouais. depuis 35 ans. Ouais. Plus de 40 journalistes au service des communautés et des demandeurs d'informations, une information ciblée, sourcée, formidable. Donc on est très heureux qu'APM nous ait rejoint dans cette branche média qui est désormais présidée par Julien Kouchner mm-hmm. et qui est un pôle devenu très important dans les activités du groupe.
Oui, dont on peut dire Edimark.
Dont Edimark, absolument.
Edimark, oui.
Dont Edimark, qui
et ses fameuses lettres,
la du cardiologue, etc. Oui. 25 publications à destination mm-hmm. des médecins spécialistes.
Oui. Comment vous voyez donc dans les années futures la révolution, l'évolution des congrès nationaux et internationaux ?
Écoutez, je crois qu'on aura toujours besoin de se réunir.
Ouais.
Je crois que le présentiel ne diminuera pas, que la sérendipidité que l'on trouve dans les congrès restera extrêmement importante, de croiser quelqu'un au détour d'un couloir et d'en faire naître un projet ou une idée. Et en même temps, la complémentarité dont je parlais entre le présentiel et le digital ne va faire que se renforcer. Et c'est la même chose pour les publications. Le papier va rester pour certaines formes de publications, parce qu'on a toujours plaisir à prendre
à feuilleter
un magazine ou un journal.
Sans
être connecté tout le temps. Mmh. Et en même temps, la rapidité à laquelle le digital permet de diffuser l'information va continuer évidemment de se développer. On remet par-dessus tout ça une petite couche d'IA et on va arriver à des choses formidables qu'on accompagnera dans les années qui viennent.
Alors pour finir, donc, vous ne vous adressez pas qu'aux professionnels de santé. Vous avez quand même deux magazines qui sont très connus.
Oui, absolument. Nous sommes les éditeurs de 30 millions d'amis, 50 000 abonnés, une édition extrêmement forte, une marque évidemment mythique. Et puis, nous sommes aussi les éditeurs de Bien-être Santé, qui est un journal qui fait le lien entre les pharmaciens et leurs clients, qui est 300 000 exemplaires distribués à travers les pharmacies en France.
Bon, est-ce que vous invitez Check-up Santé dans tous vos congrès ?
Mais j'espère bien que Check-up Santé suit tous nos congrès et que vous allez y venir.
Eh ben, on va le faire. On va le faire. On l'a déjà fait, on va le faire.
Formidable. Vous
l'avez fait à titre personnel, bien sûr.
Je sais, bien sûr.
Merci beaucoup, Marc Dancieux.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve avec plaisir après les élections européennes.
BFM Business. Check-up Santé. Au cœur de l'innovation santé.